Des voix, des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient.
Je m'appelle Yvonne Minguet. Je suis une ancienne hôtesse de la Sabena. Je suis allée à l'exposition pour la Sabena. J'ai représenté la Sabena dans le pavillon des transports qui avait été élaboré par la Sabena pour garder les trois genres de transports que nous avions en Belgique, c'est-à-dire l'aviation, le chemin de fer et la mer, donc la compagnie maritime belge. Nous étions ensemble, pavillon des transports. Moi, j'étais là pour engager des hôtesses, anciennes hôtesses de l'air, pour venir faire l'hôtesse au pavillon des transports côté aviation, où nous avions une caravelle, c'est-à-dire un avion de cette époque-là, tout neuf, qui était en construction en France à Sud Aviation. Et on avait demandé des hôtesses de l'air pour représenter toutes les parties de l'aviation. Il n'y avait pas seulement ça, mais il y avait aussi une cabine d'un Boeing que vous connaissez certainement, mais c'était les premiers avions en réaction à cette époque-là. C'était une cabine première classe qu'on avait élaborée. Et puis, il y avait aussi des compagnies américaines, comme Lockheed, qui était là, qui était représentée. Beaucoup de secteurs aussi d'aviation, qui avaient des pièces de rechange. Tout ça se trouvait dans la partie du pavillon des transports aviation. J'avais dû quitter la Sabena, c'est-à-dire que je n'ai pas quitté la Sabena, mais je ne pouvais plus voler parce que les hôtesses de l'air ne pouvaient pas être mariées à cette époque-là. Donc automatiquement, une hôtesse de l'air, elle se mariait, elle sortait de la Sabena. Eh bien, parce que je crois que c'était une question d'assurance, tout simplement. Donc on ne voulait pas que les femmes, étaient assurées, elles devaient assurer à ce moment-là, il y aurait eu des enfants et tout ça. Ça devenait sans doute, à ce moment-là, c'est pas quelque chose de trop important. Bref, les hôtesses de l'air, partout dans le monde, pas seulement à la Sabena, partout dans le monde, les hôtesses de l'air, c'était des célibataires. Et ça a changé seulement en 1962, lorsqu'une hôtesse de l'air française a gagné un procès contre l'État, parce qu'elle s'était mariée en douce, et on l'avait appris, on l'avait mis dehors, et elle a fait un procès donc à Air France, et elle a gagné son procès. À partir de là, donc, tout le monde pouvait se marier. Donc moi, j'étais là, j'étais restée à la Sabena, et pour la Sabena, j'ai donc engagé des anciennes hôtesses de l'air mariées, qui étaient sorties, qui ont pu remettre leur uniforme avec beaucoup de plaisir, et qui sont venues travailler pendant 8 mois à l'exposition ensemble. C'était vraiment une très très belle époque, je dois dire, et tout le monde était heureux. Déjà pour ces personnes qui revenaient déjà dans un milieu qu'elles avaient connu et qu'elles avaient beaucoup aimé. Et puis le fait d'être là, on voyait tout le monde, le pavillon des transports, c'était sur la grande esplanade. Tout se passait sur l'esplanade, toutes les visites officielles. On voyait tout le monde, on voyait des artistes de cinéma, des politiques, des rois, des reines, enfin tout le monde passait par là évidemment. C'était la toute grande époque de la Belgique, et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, je dois dire. C'était aussi le moment du Spoutnik, parce que les Russes avaient envoyé dans l'espace le premier satellite, le Spoutnik. C'était aussi une découverte à ce moment-là. Les Américains aussi étaient là avec leurs nouveautés au pavillon de l'Amérique. Non, c'était vraiment très, très intéressant.
Et alors, comment ça s'est mis en place, le pavillon?
D'abord, on m'a installé un bureau dans le building qui se trouvait donc en ville, la Sabena. On avait un grand building en ville. Et puis là, j'ai commencé à accueillir des hôtesses. Donc, j'avais reçu la liste de la Sabena, des anciennes hôtesses de l'air. J'ai commencé à contacter toutes ces jeunes femmes, si elles étaient intéressées à venir travailler avec moi à l'exposition. Et je dois dire, il n'y en a aucune qui a refusé.
C'est
celles qui pouvaient le faire.
On
était 12 au début, et puis après j'ai dû en rajouter parce qu'évidemment c'est quand même on s'est rendu compte qu'il fallait prolonger les heures. Et pour finir on était 20. On avait aussi organisé par exemple un transport en hélicoptère depuis l'aéroport. Les gens qui venaient des longs courriers, ce qu'on appelait les longs courriers, c'est-à-dire l'Amérique ou bien l'Afrique du Sud, par exemple, parce que c'était au nord long courrier à ce moment-là, eh bien, on emmenait les gens directement de l'aéroport jusqu'ici, jusqu'à l'exposition. Il y avait un petit héliport ici. Et là, ils étaient accueillis dans un local Sabena qu'on appelait un Lady Sabena Club. Et on recevait les dames qui venaient visiter l'exposition. Et là, elles pouvaient se reposer, elles pouvaient rester, elles recevaient du café et tout ça. Tout ça était bien organisé, vous savez. On avait un directeur donc, qui n'était pas sabénien, mais c'était un des architectes du pavillon des transports. Et c'était un homme assez ouvert comme ça. Il avait engagé une jeune femme pour être sa public relation. Et cet homme qui n'était pas savénienne. Et c'était elle qui devait aller chercher les VIP à l'aéroport et les conduire ici et puis un peu partout. Mais cette personne, elle n'avait qu'une petite deux chevaux. Vous voyez ça? Elle devait aller chercher des personnes importantes avec sa petite deux chevaux. Et quand elle a dû un jour aller chercher le grand directeur du port de New York Authority, j'aime autant vous dire que c'est important, parce que c'est l'organisme en Amérique qui gère tous les aéroports, tous les ports d'Amérique, un petit peu habillé, vous savez, qui a l'habitude des Cadillacs, quand elle était là avec sa petite deux chevaux, il a juste eu le loisir de lui laisser les bagages. Et lui, il a pris un taxi, évidemment. Mais ça, c'était les anecdotes de l'exposition, ouais. Parfois aussi, il y avait des gens qui venaient dans la caravelle et on les asseyait, on expliquait ce que c'était, donc l'avion, etc. Et puis, un jour, il y a une dame qui dit je me sens malade, je me sens vraiment malade. Elle était malade au sol, dans un avion au sol. Parce que le fait qu'elle ait trouvé dans un avion, on a dû l'emmener quelque part. Parce qu'elle se trouvait malade dans un avion au sol.
Elle avait déjà le mal d'attitude.
Avant de commencer, elle avait déjà le mal de l'air. C'était uniquement donc la structure, donc la carlingue. Il n'y avait pas les ailes, c'était uniquement la carlingue. Mais c'était une vraie carlingue. Il y avait les 70 places à bord, etc., avec les vrais sièges. C'était du vrai. Alors, il y avait une autre anecdote que je trouvais quand même tout bon aussi. Il y avait Lockheed. Lockheed, c'est une compagnie d'aviation américaine qui faisait des avions Lockheed à cette époque-là, qui étaient des turboréacteurs. Et ils sont venus présenter un de ces nouveaux avions, un quadri-réacteur. Et on pouvait faire des vols de vulgarisation. Alors un jour, ils sont venus demander les gens s'il y a des gens qui voulaient faire un vol de vulgarisation au sud de Bruxelles dans ce nouvel avion, etc. Et moi, on m'avait pris comme hôtesse pour l'avion. Bon, on avait décollé donc de l'aéroport, on avait conduit à l'aéroport. Et puis à bord, il y avait le commandant qui faisait la publicité de son avion. Il dit voilà, c'est un tout nouvel avion, donc un turboréacteur, etc., qui vole à autant de mètres d'altitude, très confortable, et qui peut voler avec deux moteurs éteints. On peut éteindre un moteur, on peut éteindre deux moteurs. Il dit il est prévu pour ça. Alors il dit si vous. Donc toujours au micro, hein. Et si vous voulez, si tout le monde est d'accord, je vais couper successivement un moteur et deux moteurs. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le fasse savoir. Il y avait un silence de mort dans la carte. Il n'y avait personne qui osait dire qu'il n'était pas d'accord. Tout le monde avait vraiment la frousse. Puis on a éteint un moteur. Il ne s'est rien passé. Puis un deuxième moteur, l'avion a simplement fait un petit peu comme ça. Et puis, bon, après, il les a rallumés. Tout le monde a poussé un ouf de soulagement. C'était marrant parce que personne n'osait dire qu'il n'était pas d'accord.
Quand on s'est rencontrés, vous m'avez raconté que vous travailliez deux jours d'affilée.
Oui.
Et puis après, il y avait deux jours de repos.
C'est
ça vous fait un peu m'expliquer.
C'est-à-dire que je pouvais faire les horaires comme je voulais, mais je m'entendais avec les filles qui étaient avec moi. On dit qu'est-ce qu'on préfère. De toute façon, il fallait assurer la présence à partir de 10h jusqu'à 8h du soir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sans repos, si vous voulez. Et alors, j'avais proposé, j'ai dit, si vous voulez, on fait deux jours complets. Avec une interruption, par exemple, d'une heure entre l'heure du midi pour manger, mais non plus que les 8 heures normales, mais on aura deux jours de congé après. Voilà, donc on faisait deux jours pleins et puis deux jours de congé. Et on avait l'occasion aussi, pendant qu'on était là, de regarder quand même aller dans un autre pavillon.
C'est
un peu plus calme, on va vite une fois à la Tchécoslovaquie, on va un peu à la Pologne, on va un peu à gauche et à droite. Ça fait qu'on voyait quand même tout ce qui se passait dans les autres pavillons.
Et comment ça s'est... Qu'est-ce qu'il y a eu après? Donc il y a eu pendant 8 mois, elle a duré combien de temps?
Eh bien l'après, évidemment, c'était qu'on a pris congé de l'exposition, bien entendu, mais il s'est passé quelque chose de terrible à la Sabena. Le lendemain de la fermeture, la fermeture avait lieu le 30 octobre, et le 2 novembre, donc je suis retournée à la Sabena, le 2 novembre, il y a eu un incendie à l'aéroport, qui a complètement brûlé ce tout nouvel aéroport qui venait d'être construit. La Sabena, donc tout l'aéroport a brûlé. Et c'était un tout nouvel aéroport qui venait de s'ouvrir pour 58. Et il n'y a vraiment plus que la structure en béton qui est restée. Tout le reste a été brûlé. Et ça, c'était le lendemain, donc deux jours après la fermeture de l'expo.
C'est très symbolique.
Très symbolique, c'est curieux.
Ouais.
Et puis ça a été dramatique parce qu'il y a eu des gens qui étaient dans la tour de contrôle, qui étaient piégés.
C'est vrai.
Zapadets qu'on a sauvés par hélicoptère. On est allé les chercher. Donc il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts ont été terribles parce que pendant 2-3 ans, cet aéroport a été comme ça. Avant qu'on ait tout remis, c'était terrible.
Ouf. Et vous étiez présente sur les lieux ?
Mais j'étais là le soir, oui. J'ai vu comment cet incendie a commencé.
Et qu'est-ce qui s'était passé ?
C'est un peu comme à l'innovation, hein. On ne s'imagine pas, ça va tellement vite, vous savez. On dit, bon, il y a le feu. Oui, on va éteindre, hein, avant le feu. Et puis brusquement, vous voyez des flammes qui s'élèvent partout. On a vu brûler cet aéroport comme une torche. Il paraît qu'on ne trouvait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau pour éteindre. Et on avait cimenté dans le tarmac les bouches d'eau. Ça fait que les pompiers sont arrivés. Ils n'ont pas su mettre leurs tuyaux, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dû faire venir des camions d'eau de Villevorde pour essayer d'éteindre cet incendie. Alors là, c'était un souvenir terrible, je dis là, l'après-expo. Hein.
Ouais, ça, c'est l'envers du décor.
Oui, l'envers du décor.
Ouf. Mmh. Sabina, ça trouve son origine quand, en fait ? Dans quelle année ?
Vous savez, la Sabena a commencé en 1923, donc vous voyez que c'est loin, c'est une ancienne, une très ancienne compagnie, une des premières, mais c'est surtout l'après-guerre, hein, qui a donné son essor. Mmh. Avant la guerre, c'était une petite compagnie, bon, on faisait quand même déjà Léopoldville, hein, on faisait quand même des grands trajets, il ne faut pas l'oublier, mais c'est surtout après la guerre, hein, que la Sabena a pris de l'ampleur. Avec le renouveau, on commençait à ouvrir des lignes, surtout aller en Amérique et tout ça, c'était important. Puis on a construit la nouvelle aérogare, je racontais, qui a brûlé juste après la fermeture de l'expo, complètement brûlé. Mais c'était une aérogare tout à fait moderne, avec des innovations qu'on n'avait même pas ailleurs. C'était très mal, et ça a brûlé comme ça, en une nuit, c'est quand même terrible. On l'a refait, bien sûr, hein, au bout de 3-4 ans, mais c'était quand même une grande tragédie. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Hein.
Ouais. Et ça veut dire quoi, Sabena, en fait ?
Sabena, ça veut dire Société Anonyme de la Navigation Aérienne. Sabena, donc c'est Société Anonyme Belge de la Navigation Aérienne.
Sabena, ça a vraiment aussi beaucoup... Beaucoup, ouais, c'était vraiment le lien entre la colonie et la Belgique.
Oui, c'était surtout ça.
Hein.
C'était surtout ça.
Ouais. Et qu'est-ce que vous deviez faire en fait pour devenir hôtesse vous-même, tu vois, à cette époque, et comment vous voyez en fait l'évolution des hôtesses à cette époque-là et maintenant?
Oh, mais c'était tellement différent parce que bien sûr, pour devenir hôtesse de l'air, il fallait passer des examens. Hein. On n'entrait pas comme ça. Et puis il y avait tout un training qui se faisait aussi. Hein. Donc, c'était pendant 3 mois, on suivait des cours. Hein. Donc, on avait vraiment, comment dire, une époque où il fallait se préparer pour être hôtesse de l'air. Donc, nous, au fond, on était préparés pour venir à l'exposition. On n'avait pas besoin des hôtesses de Bruxelles qui, elles, je disais, justement, elles étaient aussi très bien traînées. Elles étaient bien, ces filles-là. Hein. Mais nous, on avait nos propres hôtesses qui étaient aussi traînées, qui savaient ce que c'était être une hôtesse, bien sûr. Mmh. Et c'est pour ça que la Sabena a gardé ses propres hôtesses dans son pavillon. Alors que les autres pavillons faisaient appel parfois aux hôtesses de Bruxelles pour être hôtesses dans leur pavillon.
Et donc, c'était quoi en fait les critères que, je ne sais pas, je m'imagine que maintenant ça a changé aussi. Mmh. Parce qu'avant, il y avait l'émission de Madame de la Courtoisie aussi.
C'était surtout ça. C'est-à-dire maintenant, tout ça devient très technique. Hein. Les hôtesses maintenant, ce qu'on leur demande, c'est tout. C'est d'assurer à bord le service à bord, bien sûr, mais surtout le service catering, parce que les repas à bord pour les non-courriers, c'est très important aussi. Et surtout au point de vue sécurité, savoir ce qu'il faut faire hein, en cas de besoin. Donc maintenant, si vous voulez, c'est devenu très technique. Nous, c'était autre chose. Nous, on devait être l'hôtesse à bord, comme on est une maîtresse de maison. Quand vous recevez chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites tout le maximum pour que les gens soient à l'aise. Et c'était ça. Nous, pendant 3 mois, on nous apprenait aussi quand même ce que c'était que la radio-navigation, ce que c'était qu'un moteur. Et on devait apprendre tout ça. On devait pouvoir répondre à toutes les questions. On nous est toujours... Il ne faut jamais dire à quelqu'un que vous ne savez pas. On vous pose une question, vous ne pouvez pas dire « je ne sais pas ». Vous devez trouver une réponse. Et si vous ne savez pas, vous dites « je vais me renseigner ». Mais vous ne pouvez jamais dire « je ne sais pas ». Vous voyez, c'était... vraiment être au service des gens. Il n'y avait qu'une hôtesse à bord ensuite, c'était elle, la maîtresse de maison. Il y avait deux stewards avec elle qui s'occupaient de tout ce qui était catering. Mais l'hôtesse était là vraiment pour s'occuper des gens, pour les mettre à l'aise, parce que les gens avaient beaucoup peur, vous savez, à cette époque-là. Ils n'étaient pas très rassurés. Ça se voyait, on volait très bas aussi, on était beaucoup secoués, ce n'était pas aussi confortable que maintenant. Alors il fallait quand même rassurer. C'était très important, le service à ce moment-là. Maintenant, ce qui est important, c'est la sécurité. Donc vous voyez, c'est très très différent. Le métier maintenant, c'est un métier. Nous, c'était une vocation. Déjà, l'avion aussi, c'est quand même un mythe, l'avion. C'est quand même un miracle, non, un avion. Et d'être là pour les gens, et d'être au fond un point de mire pour les gens. Parce que les gens nous regardaient beaucoup. On était beaucoup pour eux. Ils savaient qu'on était là, évidemment, pour les aider, mais aussi pour les rassurer. Parce que la moindre histoire qu'il y avait à bord d'un avion, on regardait l'hôtesse. Et si elle était normale, c'est que ça allait. Et si le moindre geste qu'on aurait fait de crainte, ils auraient eu... Vous savez, c'était ça. Ouais, quand on était rassuré, on devait se rassurer auprès de l'hôtesse. Il y avait beaucoup de risques aussi, parce que vous savez, les avions, on risquait beaucoup plus sa peau à cette époque-là que maintenant. Tous ces pilotes, c'était des anciens pilotes de guerre, vous imaginez, qu'on avait entraîné. C'était des anciens, des bombardiers et tout ça, ils avaient l'habitude de foncer. Il fallait vraiment les entraîner pour que se calme un peu, pour qu'ils soient des pilotes civils, sinon. C'était comme s'ils étaient à bord d'un bombardier.
Je savais pas ça.
Ah oui, c'était les anciens, beaucoup. Enfin, évidemment, il y avait des jeunes, alors qui ont commencé aussi, qu'on entraînait d'une façon différente. Alors, vraiment pour le sud. Mais les premiers pilotes, c'était les anciens qui étaient revenus de l'Angleterre, qui avaient fait toute la guerre en Angleterre.
C'est grave ça. Mais est-ce que vous connaissez tout le langage comme ça, Victor Charlie, Charlie's calling for Mike Sierra Foxtrot over?
Pas tout, non, évidemment. On sait que ça, m'aider, c'était pour appeler au secours et tout ça, mais bon, non, on ne peut pas dire que moi, je ne m'en souviens plus, en tout cas. Vous savez, c'est quand même assez loin, tout ça. Mais on devait quand même être bien au courant de pas mal de choses. Et on passait des examens. Quand on avait fini les cours, la radionavigation, il fallait passer des examens. Il fallait savoir comment atterrir un avion.
Atterrir.
Ah oui, on devait savoir, pas le piloter, mais savoir comment on naviguait pour atterrir un avion. Avec les moyens de bord, l'ILS et tout ça, on devait savoir ce que c'était. Donc on passait des examens et tout ça. On devait aussi savoir comment étaient les écoutes téléphoniques entre aéroports, ce que c'était qu'un QNH. Vous savez, tous ces mots-là, tous ces codes-là, après on les a oubliés évidemment, on ne retient pas tout ça, ce n'est pas notre métier, mais au départ on devait le savoir. Pour que si on nous demandait quelque chose, qu'on pouvait au moins répondre, même si on ne savait pas tout, on a dit, ben, on va le demander au commandant.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.